Acte 2. Décor. Le cabinet du professeur Moriarty. C'est une vaste pièce souterraine avec des murs en pierre et un plafond en forme de voûte. Elle donne l'idée d'une ancienne cave convertie en un bureau confortable où rien ne manque des perfectionnements modernes. Pas de fenêtre. Au fond, large et massive porte de chêne, bardée de fer, donnant dans un corridor dont on voit la muraille. Cette porte présente toute une combinaison de verrous et de fermetures qui manœuvrent comme il sera décrit dans la suite de l'acte. Les murs du cabinet sont revêtus, un peu plus qu'à hauteur d'homme, d'une boiserie de chêne. Sur cette boiserie, des cartes d'Angleterre, de France, d'Allemagne, de Russie. Un plan de Londres, marqué de rouge en certains endroits. À peu près au milieu du théâtre, incliné sur la droite, un énorme bureau, rempli de livres, de papiers, de dossiers de toutes sortes. Un pupitre pour écrire debout occupe toute la partie gauche du décor, couvert de livres de commerce. Un haut tabouret permet d'y écrire assis. Téléphone, tube acoustique. Toute une série de boutons de sonnette sur le bureau. À droite, une cheminée avec un feu de charbon. Encore tout un jeu de sonnettes à côté de la cheminée. Fauteuil de cuir, pendule. À droite, après la cheminée, une porte percée d'un petit Judas. Le professeur Moriarty est assis à son bureau. Il dépouille son courrier du matin. Lettres, télégrammes, papiers de toutes sortes. C'est un homme entre deux âges, avec une tête étrange au front énorme. Son visage exprime une énergie extraordinaire et une remarquable force intellectuelle. La mâchoire est proéminente, les sourcils abondants. Une obscurité relative règne dans la pièce. Seul sur le bureau, brûle une lampe électrique, projetant sa lueur sur le visage de Moriarty. Scène 1. Moriarty, puis Basic. Un silence au lever du rideau. Moriarty appuie sur une sonnette dont on entend au dehors le tintement. Une sonnerie différente, en réponse à cet appel, résonne deux fois. Moriarty, il prend le tube acoustique et le porte à sa bouche. Moriarty, parlant dans le tube.
Quel numéro ?
Il porte le tube à son oreille, écoute, puis le reporte à sa bouche pour parler.
C'est bien.
Il laisse tomber le tube. Appuie fortement sur un levier de fer placé à sa portée près du bureau. Entre Basic. Il marche doucement, si doucement qu'on entend à peine le bruit de ses pas. Il referme la porte et reste debout, devant elle, dans une demi-obscurité.
« Ah, Basic, avez-vous des nouvelles de ce vol de bijoux à Dieppe ?»«
Pas encore, monsieur. »
Tous les autres rapports de la journée d'hier sont arrivés ?
Oui, monsieur, celui-là seul manque.
J'ai peur que nous ayons quelque ennui de ce côté. C'est Dixon qui s'est occupé de l'affaire, et je regretterai de le perdre, c'est un de nos meilleurs hommes. Autre chose, qu'y a-t-il de décidé à propos du banquier Davidson ?
Je vous ai préparé une note à ce sujet, monsieur. Il redoit de l'argent sur la dernière opération.
Je sais, quelque chose comme 600 livres sterling, n'est-ce pas ?
À peu près.
N'a-t-on pas dit à Fletcher de s'en occuper ?
Basic prend une note sur un bloc.
Aussitôt que vous aurez encaissé, faites en sorte qu'on se débarrasse de ce Davidson. Je n'aime pas les mauvais payeurs, on les achète trop facilement. Qu'est-ce que vous savez sur cette affaire de faux billets de banque qu'on nous proposait de Boston ? Cela vaut-il quelque chose ?
Pas un penny, monsieur. Toute la combinaison n'est qu'un piège.
Je m'en doutais.
Une souricière tendue et mise en œuvre par un malin.
Mais nos lettres et nos instructions, vous avez pu remettre la main dessus et les détruire, je suppose.
Cela a été impossible. Notre représentant a disparu tout à coup, et tous les papiers avec lui.
Ce doit être encore un tour de Sherlock Holmes. Et le procès Arlington, notre avocat, a-t-il pu avoir une remise ?
Non, monsieur. Elle a été refusée. Et l'affaire se présente mal. Vous savez que c'est pour mardi prochain.
Je me demande quelle influence, là encore, a pu agir contre nous sur les juges.
Parbleu, toujours la même, Sherlock Holmes.
Encore cet homme, il n'y a pas à dire, c'est une guerre sans merci qu'il nous a déclarée. C'est moi qu'il vise.
Avec un sourire sarcastique.
Mais il joue un jeu dangereux. Sir Reginald Dobson, le chef de la police, a voulu en tâter il y a 17 ans. Et Sir Reginald Dobson est mort. L'année dernière, son successeur Anderson s'est avisé de recommencer. Depuis quelque temps, on n'entend plus parler d'Anderson, n'est-ce pas ?
Non, monsieur.
Ce Sherlock Holmes est un habile homme. Il espère me compromettre dans cette affaire Arlington. Mais entre aujourd'hui et mardi, il coulera de l'eau sous le pont de Westminster. Ce Holmes ignore-t-il qu'il n'y a pas une rue à Londres où il pourra passer en sûreté, si je murmure seulement son nom à l'oreille de Fletcher ?
Ah, monsieur, dites-le, finissons-en avec cet homme.
Ai-je l'habitude de vous demander conseil sur ce que j'ai à faire ? Faites-moi le plaisir de ne répondre que lorsque je vous interroge. Non, avant d'en venir à cette extrémité avec le sieur Sherlock Holmes... Je veux m'offrir la satisfaction d'aller lui rendre visite moi-même, quand ce ne serait que pour avoir le plaisir de faire sa connaissance. C'est, je crois, dans Baker Street qu'il demeure.
Oui, monsieur, 123 Baker Street, au coin de la petite ruelle de Tramorton.
Il vous est facile de vous assurer du voisinage, de façon à être les maîtres absolus pendant une heure du pâté de maison qui entoure la sienne.
Seulement...
Quoi ? Nous avons fait ça bien souvent. Éloigner les policemen sous un prétexte quelconque. D'un côté, une femme qui se trouve mal et qu'on transporte chez le pharmacien, un accident de voiture de l'autre. Un homme à nous à chacune des portes sur un rayon de 100 mètres. Attirez les serviteurs de M. Holmes hors de chez lui et retenez-le pendant le temps que durera ma visite. Ce sera pour ce soir. Cet homme m'intéresse. Il est remarquablement intelligent et je veux lui offrir la possibilité de tirer son épingle du jeu en gardant la vie sauve. S'il refuse de s'arranger, alors... tant pis pour lui.
Il a sorti d'un tiroir 2 revolvers. Les compare, en met un dans sa poche et replace l'autre où il l'a pris. Moriarty fait signe à Basic d'aller voir ce dont il s'agit. Celui-ci se lève et approche le récepteur de son oreille. Moriarty, toujours à son bureau, continue à examiner ses papiers. Basic, parlant et écoutant au téléphone.
Oui, c'est bien moi, Basic. Qu'est-ce qu'il me demande ? Brip, ah oui, faites-le attendre. Il veut savoir si j'ai reçu son télégramme d'hier soir. Parfaitement. Priez-le donc de venir me parler lui-même au téléphone. Bonjour, Brib. Oui, j'ai bien reçu votre télégramme, mais je suis occupé pour le moment. Il faudra que vous patientez. Et qui ? Allons donc. Vous en êtes sûr ? Attendez une minute.
Il laisse le téléphone et s'adresse à Moriarty.
Voilà, du nouveau, monsieur. Brip est là-haut pour me parler d'une affaire qu'il voudrait nous confier. Il dit qu'il a précisément contre lui... comme adversaire dans l'opération Sherlock Holmes.
Vraiment ? Demandez-lui ce dont il s'agit.
Basic va reprendre le téléphone.
Une minute.
Basic s'arrête.
Dites-lui plutôt de descendre ici.
Dans votre cabinet, mais personne ne vous a jamais vu, personne ne vous connaît. C'est la base de tout votre système, c'est cette prudence qui fait notre sûreté depuis des années.
Rassurez-vous, Brib ne me verra pas. C'est vous, Basic, qui causerais avec lui. J'écouterai simplement dans la pièce voisine. Ce bureau est le vôtre. Vous comprenez, le vôtre. Moi,
montrant la droite,
je serai là.
Bien, monsieur, c'est compris.
Au téléphone.
C'est toujours vous, Bribe. Écoutez, j'ai trop à faire pour monter vous parler, mais vous pouvez descendre me voir. Vous dites qu'il y a du monde avec vous. Quelle sorte de gens ?
Il écoute un moment, puis s'adresse à Moriarty.
Il dit qu'il est avec deux personnes, un homme et une femme, les Orlebar, qui sont intéressés dans l'affaire et qui tiennent absolument à assister à son entrevue avec moi.
Oui, eh bien, qu'ils descendent aussi.
Au téléphone.
Bribe, priez donc Fletcher de venir au téléphone, s'il vous plaît. C'est vous, Fletcher ? Les gens qui sont avec Bribe, quelle tournure ont-ils ? Examinez-les attentivement. Rien de louche ? Non. Eh bien, faites-les descendre et amenez-les ici en leur faisant faire le tour par le souterrain. Oui, ici même. Seulement, surveillez-les le long du chemin et voyez si vous ne leur trouvez rien de suspect. Vous avez compris ? Cette affaire-là non plus ne me dit pas grand-chose.
Il faut voir. Mais comme Sherlock Holmes s'attaque à tous nos projets, je ne dois rien négliger où il a la moindre accointance. Qui sait si cette affaire qui vous déplaît ne va pas nous fournir, au contraire, le moyen d'en finir avec lui.
Voici qui annonce la descente de nos visiteurs.
Encore une fois, vous avez bien compris. Vous êtes dans votre bureau.
Sortant à droite.
Pas un mot de moi.
Scène 2. Bassic, puis Fiton, puis Bribe, Madge et Orlebar. Après la sortie de Moriarty, Bassic s'assoit au bureau à la place du professeur. Bassic parlant dans le tube acoustique.
Envoyez-moi Fiton.
Bassic se lève et fait agir le levier qui ouvre le verrou de la porte. Entre Fiton, qui se tient à la même place que Bassic tout à l'heure.
Fiton, il va venir ici trois personnes. Vous tiendrez à ce pupitre, comme si vous aviez à travailler, et vous ne les quitterez pas de l'œil. Au cas où quelque chose dans leur attitude vous paraîtrait louche, laissez tomber votre mouchoir. Si c'est la femme que vous soupçonnez, ramassez-le. Si c'est l'homme, ne bougez plus.
Fiton va au pupitre et se met en demeure d'exécuter les ordres de Bassic, celui-ci prenant un autre tube et parlant.
Quel numéro ? Les trois personnes que j'attends sont avec vous ?
Il écoute la réponse, replace le tube à sa place et fait agir le levier qui met en mouvement le verrou. La porte s'ouvre. Entre Bribe, introduit par Fletcher, qui reste en dehors, et suivi par Madge et Orlebar. Orlebar se retourne surpris et un peu ému de se voir bloqué dans cet endroit singulier. Bassic désigne une chaise à Madge. Orlebar est debout derrière elle, Bribe à sa droite. Fiton au pupitre examine Orlebar en s'essuyant le front de temps en temps avec son mouchoir.
Salut, monsieur Bassic.
Bonjour, Bribe.
Monsieur et madame Orlebar, deux bons amis à moi.
Enchanté de faire votre connaissance.
Orlebar et Madge, un peu interloqués, répondent à son salut.
J'ai cru comprendre par le téléphone, Bribe, que vous me disiez avoir contre vous dans une affaire l'antagonisme de monsieur Sherlock Holmes.
Parfaitement, monsieur Bassic. C'est bien cela.
Ayez la complaisance de me donner quelques détails.
Voilà. Il faut vous dire que Jim et Madge Orlebar, que je connais depuis longtemps, ont mis la main à Ostende sur une demoiselle, Miss Alice Brent, dont la sœur a eu jadis une liaison avec un gentilhomme d'un rang tout à fait élevé. Pas seulement un duc ou un marquis. Un numéro un, vous savez. Naturellement, le galant avait promis le mariage, mais la famille a mis le holà et tout basculé. Elle a même tant fait que l'amoureux a abandonné sa bonne amie. Seulement, il faut vous dire que pendant qu'il roucoulait avec elle, il lui a donné des bijoux, des photographies. Il lui a surtout écrit des lettres, où, comme de juste, il épanchait sa flamme et ne cachait ni ses titres, ni son rang. Pour lors, voilà l'amoureuse qui, dans sa douleur d'être abandonnée, se met à tourner de l'œil, et les lettres, avec le reste du bagage, tombent dans les mains de sa sœur, qui est justement la personne avec laquelle mes amis se sont liés et qu'ils ont amené à Londres accompagnés de sa maman.
Ces dames sont à Londres. Dans quel quartier ?
J'ai loué une maison pour les héberger, au coin de Norrington Road.
Basic, prenant des notes sur un bloc.
Depuis combien de temps habitez-vous là ?
18 mois.
Qu'est-ce qui vous fait croire que ces lettres et ces documents peuvent avoir de la valeur ?
Parbleu, c'est simple. Il y a un mariage, un grand mariage sous roche, pour le monsieur. Alors, on fait des offres pour avoir la correspondance et des portraits. Et c'est pour cela que nous voudrions tant arriver à mettre la patte dessus.
Miss Brent ne les a donc pas emportés avec elle ?
Au contraire. Et voilà justement le point noir.
J'avais acheté un coffre-fort pour que la petite y serra tous les documents, espérant bien pouvoir les en retirer au moment opportun. Mais voilà que la demoiselle a changé sournoisement les lettres de la combinaison. J'ai demandé alors à Bribe de nous prêter ses talents pour ouvrir l'objet. Ça a marché tout seul. Mais nous sommes restés stupéfaits en trouvant le coffre vide. La petite Mathine avait tout retiré.
Alors, qu'avez-vous fait ?
Au moment où nous venions seulement de nous rendre compte de la chose, on a sonné à la porte. C'était Sherlock Holmes.
Mais lui, qui venait chez vous ?
Chez moi ? Quel aplomb, hein ? Car enfin, je ne le connais pas.
Les lettres ne sont pas entre ses mains, au moins.
Mais si, c'est-à-dire qu'elles y ont été pendant un moment. Seulement, il les a rendues à la demoiselle.
Rendues ? Qu'est-ce que cela signifie ?
Ah, ça, dame ! Je n'y ai rien compris. Mais il y a encore un autre point qui m'intrigue. Pendant que ce maudit homme était chez nous, il est survenu un accident, en bas, dans la cuisine. Une lampe est tombée d'une table et a tout mis en flamme. Le maître d'hôtel est monté comme un fou en criant « Au feu !» Je suis descendu en toute hâte avec ma femme. Heureusement, quelques seaux d'eau ont suffi pour éteindre ce commencement d'incendie.
Scène 3. Les mêmes Moriarty. Moriarty est entré inopinément par la porte qui est à côté de son bureau.
Monsieur Orlebar, je prends votre affaire en main.
Tous se retournent avec surprise.
Mais...
Tais-toi, c'est le patron. Regarde Basic.
Il montre Basic qui s'incline respectueusement.
Moi qui ne l'avais jamais vu, en voilà une veine.
Avant tout, la première chose à faire est de vous débarrasser immédiatement de votre maître d'hôtel. Non pas de le renvoyer, entendez-moi, de vous débarrasser de lui.
À Basic.
Fletcher se chargera de cela aujourd'hui même à la nuit. Donnez-lui 2 hommes pour l'aider. Monsieur Orlebar enverra son maître d'hôtel à la cave, sous un prétexte quelconque. Nos 3 gaillards y seront.
Mouvement de Midge.
Soyez tranquille, madame. Il n'en résultera pour vous aucun inconvénient. Nous faisons ces choses-là en douceur, sans le moindre bruit, en gens du monde.
À Basic.
Séraphin est-il occupé ?
Il devait partir demain pour New York avec le faux testament du milliardaire Clifton.
Clifton va mieux. J'ai reçu tout à l'heure une dépêche me l'annonçant. Séraphin ne prendra que le steamer de la semaine prochaine et il accompagnera Fletcher.
Bien, monsieur.
Pensons à quelque chose de plus sérieux. Avez-vous vu ces lettres, ces photographies, ces papiers dont vous me parlez ? Connaissez-vous leur apparence extérieure, le volume qu'ils représentent ?
Oh oui, monsieur, je les ai examinés souvent, maniés même.
Pourriez-vous me faire confectionner un paquet de ces différents objets qui ressembleraient exactement à celui que Sherlock Holmes a tenu dans ses mains hier soir ?
C'est facile.
Je vous enverrai quelqu'un pour vous aider, un gaillard fort habile qui agira d'après vos instructions. Basic, ce vieil artiste suédois, c'est l'homme qu'il nous faut.
Leufner ?
Oui, envoyez Leufner chez Madame Orlebar ce matin à 11 heures avec vos instructions.
Il regarde sa montre.
Il est 10h15. Cela vous donne 3/4 d'heure pour rentrer chez vous. Il me faudra ce paquet ce soir à 10h. Vous avez donc toute la journée pour le fabriquer à votre aise.
Il sera prêt, monsieur.
C'est bien. Basique, expédiez un mot à Jarvis pour lui dire que j'aurai besoin ce soir à Stepney de la chambre du sommeil.
Celle des deux qui donne sur la rivière.
Que Fletcher soit là-bas à 7h15 avec ses hommes. Monsieur Orlebar, je désire aussi que vous écriviez à monsieur Sherlock Holmes une lettre dont on vous dictera les termes. Votre assistance me sera également nécessaire un instant ce soir.
Se tournant vers Bribe.
Venez me prendre ici à 11h tous les deux.
Tout cela est très bien, monsieur, mais vous ne parlez pas des conditions dans lesquelles nous allons traiter. Je ne suis pas sûr que nous tombions d'accord.
Moi, j'en suis sûr, car vous n'avez pas le choix.
Pas le choix.
Madge se lève pour le calmer. Fiton laisse tomber son mouchoir. Basique s'avance, prête à s'interposer.
Non, vous ne l'avez pas. D'ailleurs, j'ai l'habitude en affaire d'agir toujours selon mon bon plaisir.
Et vous ne me demandez pas si c'est le mien.
Basique, devant la colère d'Orlebar, fait un mouvement pour se mettre entre lui et Moriarty.
Je me charge de reprendre à Miss Brent les lettres qui sont en sa possession, et je saurai les négocier pour une somme 10 fois plus forte que celle que vous pourriez en tirer. Vous aurez de plus ce soir l'occasion de vendre à bon prix à Sherlock Holmes le faux paquet que je vais faire confectionner. L'argent provenant de ces deux opérations sera divisé entre nous de la façon suivante. Vous prendrez tout, je ne prendrai rien.
Rien ?
Je n'ai pas l'habitude de répéter mes phrases 2 fois.
Mais monsieur, nous ne pouvons pas traiter sans savoir qui ces lettres visent. Monsieur Orlebar ne nous en a pas encore informé.
Monsieur Orlebar a prudemment agi en ne livrant pas tout son secret. À l'heure qu'il est, il n'aura plus certainement les mêmes scrupules.
Madge, allant à Moriarty.
Monsieur le professeur, nous préférerions ne donner ce renseignement qu'à vous seul.
Elle désigne Basique. Moriarty fait un signe à celui-ci qui se retire au fond à côté de Fiton. Moriarty tend une carte et un crayon à Madge, qui écrit un nom et le passe à Moriarty. Celui-ci l'examine avec surprise.
Pas possible. Vous êtes certaine du nom que vous venez d'écrire là ?
Absolument.
Vous savez alors que c'est une fortune que vous avez entre les mains.
Nous en doutons bien. Il n'est pas trop tôt que nous soyons un peu à notre aise.
Il est vraisemblable que si j'avais connu ce nom plus tôt, je ne vous aurais pas fait les conditions que nous venons de stipuler.
Qu'à cela ne tienne, vous pouvez revenir sur le marché.
Jamais. Ce n'est pas dans les usages de ma maison. D'ailleurs, je me considère suffisamment rémunéré si, grâce à vous, je puis écarter définitivement de mon chemin le caillou qui me gêne. Mais voici l'heure du courrier. Monsieur Orlebar, madame, je vous salue.
Il salue et met en mouvement le levier qui ouvre la porte. Basique fait signe à Fiton de reconduire les visiteurs. Tous les deux s'inclinent et sortent suivis par Bribe et Fiton. Scène 4. Moriarty, Basique.
Basique, placez vous-même vos hommes autour de la maison de Sherlock Holmes ce soir.
Vous persistez toujours à aller le voir, monsieur.
Plus que jamais.
Il tire son revolver.
Et le rendez-vous tient quand même à la chambre du sommeil?
Si je n'en finis pas tout à l'heure avec monsieur Sherlock Holmes, nous le rattraperons à Stepney. Enfin, Basique, nous allons donc pouvoir travailler tranquille.
Rideau.